Bienvenue dans l'émission Sursum Corda, le podcast qui vous fait redécouvrir les trésors de la foi chrétienne, semaine après semaine. Je suis l'abbé Mathieu Raffray, prêtre et théologien, et je vous propose à chaque épisode de plonger ensemble dans le catéchisme de l'Église catholique. L'occasion d'éclairer les grands problèmes de notre temps, les grandes questions de tous les temps, à la lumière de l'enseignement de l'Église. Ce podcast vous est proposé chaque jeudi à 17h sur Radio Courtoisie, puis il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute le dimanche à midi. Soutenez-le, faites-le connaître autour de vous. Saison 2, épisode 24, le sacrement du mariage. Alors nous avions commencé la semaine dernière à étudier le passage sur le sacrement du mariage et à montrer comment Dieu l'a institué comme un constitutif essentiel de la nature humaine, puisque dès la création de l'homme, Dieu crée l'homme dans cette complémentarité entre homme et femme, et en appelant l'homme et la femme à s'unir de façon indissoluble pour être fécond et se multiplie. On a vu aussi que le péché menace le mariage dans son unité et dans son indissolubilité, donc par la discorde et l'infidélité, et que le péché originel, le premier péché, a une conséquence immédiate sur Adam et Ève, qui sont touchés, qui se voient, qui réalisent qu'ils sont nus, et la nudité, donc la sexualité, devient problématique, devient un lieu de aussi bien, puisque c'était le lieu de la transmission de la vie, et donc d'une certaine façon là où l'homme touche ce mystère divin qu'est le don de la vie, eh bien ça devient aussi le lieu de toutes les perversions et de toutes les beaucoup de crimes d'ailleurs aussi, et de toutes les menaces et tous les dangers. Alors comment ça se passe, comment le mariage évolue entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qu'est le sacrement du mariage. Alors d'abord, qu'enseigne l'Ancien Testament sur le mariage? Tout particulièrement à travers la pédagogie de la loi et des prophètes, Dieu aide son peuple à faire mûrir progressivement en lui la conscience de l'unicité et de l'indissolubilité du mariage. L'alliance nuptiale de Dieu avec Israël prépare et préfigure l'alliance nouvelle, accomplie par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, avec l'Église, son épouse. Alors il y a là, disons, une réponse à une objection qui n'est pas mentionnée, mais qui consisterait à dire que dans l'Ancien Testament, les patriarches, un certain nombre de patriarches ont plusieurs femmes. Salomon avait tout un harem. Il avait 150 femmes, dit-on. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Et puis Abraham avait a eu deux femmes sous le commandement divin. Alors évidemment, on avait un rôle symbolique qui signifiait les deux alliances, mais néanmoins. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ça, a demandé ça? Eh bien, la réponse qui est donnée ici, c'est que y a une pédagogie de l'Ancien Testament, une pédagogie du peuple juif. Dieu, en fait, éduque ce peuple qu'il s'est choisi pour lui enseigner, contrairement aux tendances, disons, de l'homme sous l'effet du péché, qui a plutôt tendance à vouloir avoir plusieurs femmes. On peut dire que d'une certaine façon, la monogamie et l'engagement définitif, c'est une marque du christianisme. Tous les peuples païens, et d'ailleurs aujourd'hui, à cause du rejet du christianisme et du retour au paganisme, eh bien, les gens ne comprennent plus la monogamie. Je me souviens dans un village de la Beauce, quand j'étais séminariste ou jeune prêtre, on jouait au foot avec les jeunes du village, avec les séminaristes et les jeunes du village qui venaient jouer. C'était la grande activité du coin. C'était très sympa d'ailleurs, parce que il y avait toujours des jeunes qui venaient là du village, et puis ensuite on avait le goûter, donc ils venaient au séminaire prendre le goûter, et puis ensuite ils restaient pour les vêpres, et donc ils assistaient aux vêpres. C'était assez cocasse, c'était assez drôle. Il y avait toujours trois ou quatre qui restaient comme ça pour les vêpres. Bon, ils étaient pas plus pratiquants ni intéressés par la religion, mais ils aimaient bien. C'était l'activité la distraction du village, c'était les séminaristes qui étaient là. Bon, je vais faire la parenthèse, mais une fois, je me souviens, après avoir joué au foot, là, on était dans l'herbe, il faisait beau, donc on discutait, et puis il commence à dire, mais c'est pas vrai que les prêtres, que vous avez pas eu des femmes, c'est pas possible. Et alors moi, assez naïvement, j'allais dire, je dis, bah, de toute façon, vous savez, quand un homme se marie, bah, en fait, il renonce à toutes les autres femmes. Nous, c'est pareil, on a fait un choix, le choix de la vocation, donc qui implique qu'on renonce à toutes les autres femmes. Et à toutes les femmes, quoi. Et là, il se marre, tout le monde se marre, en disant, non, mais vous croyez quand même pas que ça existe, un homme qui reste toute sa vie avec la même femme. Bah, je dis, bah, si. Mais comment ça? Et alors, ils étaient tout à fait honnêtes, ils rigolaient en disant, mais non, est-ce que vous connaissez une seule personne, un seul couple qui est resté fidèle toute sa vie? Je dis, bah, bien sûr, j'en connais plein. Enfin, déjà, mes parents. Et plein, plein de, bien sûr. Et alors, eux, ils disaient, dans leur connaissance, alors c'était assez effrayant, parce qu'on était pourtant en France, dans la France du 21e siècle. Il y en avait aucun, ils étaient une dizaine, il y en avait aucun qui avait ses deux parents qui vivaient ensemble et qui avaient été mariés, qui étaient restés l'un avec l'autre. Voilà, ils étaient tous, toutes les familles étaient séparées, divorcées, remariées, concubinaires, etc. Souvent en plus avec des drames derrière. Ça m'a, je me souviens que ça m'avait un peu effrayé parce que je me disais, mais en fait, ce qui est dramatique, c'est qu'on est revenu déjà à un état de paganisme et puis et que en plus les campagnes françaises ne sont pas du tout préservées de cette décadence morale et surtout je me disais, mais tous ces jeunes, en fait, ils n'ont aucun exemple, ils ne savent pas que ça existe, ils ne croient pas que ça puisse exister. Enfin voilà, je ferme la parenthèse, mais donc voilà, c'est le Dieu qui a voulu éduquer son peuple pour lui enseigner cette unicité du mariage, cette indissolubilité du mariage, et ça a pris du temps. Ça a pris du temps, il a fallu différentes étapes, et donc ça a été progressif. Dieu a aidé son peuple à mûrir progressivement. Et donc, d'ailleurs, il y a cette réflexion qui est très très belle, l'alliance nuptiale de Dieu avec Israël, donc le fait que Dieu se soit choisi un peuple et qu'il ait engagé une alliance, ça vous souvenez avec le l'arc-en-ciel à la fin du déluge avec Noé, puis cette promesse à Abraham, disant ta descendance sera plus nombreuse que les grains de sable sur la plage. Et donc c'est une alliance de Dieu avec son peuple qui préfigure l'alliance nouvelle entre le Christ et l'Église, son épouse, comme dit Saint Paul dans l'épître aux Éphésiens, qu'on va citer tout à l'heure, et qui est l'épître célèbre du mariage, au moins dans la messe traditionnelle. Et donc, vous voyez, comme Dieu s'est uni à un peuple, de même que le Christ s'est uni à l'Église. Donc il y a, dans toute l'histoire du salut, aussi bien de l'Ancien Testament que du Nouveau Testament, un caractère nuptial, un caractère d'engagement, de mariage, de don de soi, et donc d'amour, entre Dieu et les hommes, évidemment. Alors, question suivante, quelle est la nouveauté apportée au mariage par le Christ? Jésus-Christ a non seulement restauré l'ordre initial voulu par Dieu, mais il donne la grâce pour vivre le mariage dans sa dignité nouvelle de sacrement, qui est le signe de son amour sponsal pour l'Église. Et vient ensuite une citation de l'Épître aux Éphésiens, « Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ, il a aimé l'Église. » Alors, dans un premier temps, cette réflexion donc théologique très très profonde. Donc le Christ a restauré l'ordre du mariage, donc l'unicité, l'indissolubilité du mariage qui était perdue depuis le péché originel. Mais de plus, il donne sa grâce. Et c'est la grande théorie de la justification dont on a déjà eu l'occasion de parler et qui distingue les catholiques des protestants, à savoir que pour les catholiques, la grâce ne vient pas simplement recouvrir, cacher la misère du péché, mais elle vient restaurer, elle vient soigner, elle vient réparer ce que le péché a blessé, et elle vient surélever en donnant une dignité nouvelle du sacrement. Donc le mariage, même blessé par l'union de l'homme et de la femme, même blessé par le péché originel, est restauré par le Christ, et le fait qu'il y ait un sacrement qui soit lié au mariage, c'est précisément pour oindre, pour donner cette grâce de l'aide divine, de la présence de Dieu, de la présence du Christ qui vient bénir et qui vient surélever le mariage malgré la blessure. Oui, c'est toujours la même mentalité, la même méthode, à savoir de surélever ce qui était abîmé. Alors ici, il y a une citation sur laquelle j'aimerais revenir, bien sûr. Alors je l'ai dit, oui, pardon, d'abord que le mariage est le signe de l'amour sponsal du Christ pour l'Église. Alors j'ai dit que dans cette nouvelle alliance, le Christ est uni à l'Église comme un homme est uni à sa femme, spirituellement évidemment, mais ils ne forment plus qu'un, ils ne forment qu'une seule chair. Alors évidemment, c'est pas charnel, puisque c'est le corps mystique du Christ est évidemment un corps spirituel, mais cette union sponsale, vous voyez encore une fois, comme je disais la dernière fois, l'amour humain est bien au-delà qu'un amour charnel. C'est un amour spirituel dont l'amour charnel n'est qu'une moindre participation qui est largement touchée par le péché. Alors voilà, j'aimerais qu'on revienne sur cette phrase très célèbre de saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5. Qui dit, ici est cité une partie, mais j'aimerais vous citer l'ensemble de l'épître, parce que qui donne lieu à de nombreuses controverses, que j'aimerais faire taire immédiatement. Alors ce texte se trouve au chapitre 5 de l'épître aux Éphésiens, donc de saint Paul bien sûr, qui affirme ceci, cette phrase qui sortit de son contexte, bah évidemment fait grincer des dents, « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Alors, il s'agit du verset 22, qui dit « Femmes, soyez soumises à votre mari », à vos maris, comme au Seigneur Jésus. Car pour la femme, le mari est la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Et ensuite, vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église jusqu'à se livrer pour elle, afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale accompagné d'une parole, etc. Bon. Et ensuite, c'est de la même façon que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Évidemment, pris dans un contexte surtout musulman, eh bien, femmes, soyez soumises à vos maris, c'est un peu incompréhensible. J'aimerais appeler à la lucidité, l'intelligence de l'écriture. Ici, saint Paul ne dit pas du tout « femmes, soyez soumises à vos maris ». Il explique de quelle façon les femmes doivent être soumises à leur mari, à savoir comme au Seigneur Jésus. Il ne dit pas, c'est pas un ordre, soyez soumises à votre mari. Il explique, si, dans un contexte d'ailleurs juif et dans un contexte dans lequel les femmes sont de fait soumises à leur mari, eh bien c'est un appel au contraire à ce que cette soumission ne soit pas une soumission d'obéissance, comment dire, une soumission de soumission, et encore moins d'esclavage, mais il explique de quelle façon on peut entendre cette phrase « Soyez soumises à vos maris » comme au Seigneur Jésus, comme l'Église est soumise au Christ. Et puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Donc c'est une comparaison en fait que fait saint Paul. Il ne dit pas « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Il dit « Cette soumission n'a de sens que si c'est à l'image du Christ et de son Église. » À savoir que le Christ a donné sa vie pour l'Église. À savoir que il y a une unité parfaite entre le Christ et l'Église. Et d'ailleurs, cette réflexion porte plus, ce passage de saint Paul porte davantage sur une théologie de l'Église que sur une considération morale sur les femmes et les relations entre les hommes et les femmes. Mais donc, vous voyez, c'est toute une réflexion spirituelle qui, au contraire, appelle à purifier, à transformer, à spiritualiser et à rendre meilleure la relation entre les hommes et les femmes. En d'autres termes, saint Paul ne dit pas ici, encore une fois, il ne dit pas aux femmes qu'elles doivent être soumises à leur mari. Il dit que la relation entre l'homme et la femme doit être à l'image, pour être sainte et belle, elle doit être à l'image de la relation entre le Christ et l'Église, à savoir d'un don mutuel de l'un pour l'autre. Et c'est d'ailleurs plus exigeant pour l'homme que pour la femme, puisque il dit le Christ lui a donné sa vie pour son Église. Évidemment, l'Église est soumise au Christ, mais évidemment pas dans une soumission, qui soit dégradante ou qui soit négative. Quand une personne aime une autre, eh bien, elle veut lui plaire, elle veut vivre en union, en présence de la personne, ne lui déplaire en rien, au contraire, être comme tout à fait donné. Et donc, on est plutôt dans une perspective du don et du sacrifice. de l'un pour l'autre, bien sûr, plutôt que dans une perspective de soumission. Bon, j'espère que j'ai éclairé un peu ce passage qui est très souvent mal compris, et il faudrait pas que, évidemment, que ça donne, enfin, souvent il est utilisé pour accuser Saint Paul de tout et n'importe quoi, mais ici on comprend très bien dans cette dignité de sacrement, eh bien du sacrement de mariage, eh bien l'union de l'homme et la femme est appelée à être spiritualisée à l'image de l'union du Christ et de l'Église. Alors avançons dans ces questions sur le mariage. Le mariage est-il une obligation pour tous ? Le mariage n'est pas une obligation pour tous. En particulier, Dieu appelle certains hommes et certaines femmes à suivre le Seigneur Jésus, dans la voie de la virginité et du célibat pour le royaume des cieux, les faisant renoncer aux grands biens du mariage pour se soucier des choses du Seigneur et chercher à lui plaire. Ainsi, ils deviennent le signe de la primauté absolue de l'amour du Christ et de l'ardente attente de sa venue glorieuse. C'est un très beau texte. C'est un très beau texte qui montre le sens du célibat sacerdotal ou de la virginité consacrée. Je dirais que vous savez toutes les attaques qu'il y a contre les prêtres, tous ces gens qui disent ah ben les prêtres ont qu'à se marier. J'en ai déjà parlé, mais comme si les prêtres voulaient se marier déjà, comme si les pauvres prêtres qui n'ont pas le droit de se marier, comme si c'est quelque chose qui va les faire évoluer dans l'Église, c'est complètement absurde. Les prêtres qui ont choisi d'être prêtres, mais ils ont fait le vœu de célibat en sachant pourquoi, en comprenant pourquoi, et il faut les encourager évidemment à rester fidèles à ce vœu, de même qu'un homme et une femme qui se sont engagés dans le mariage doivent être engagés à rester fidèles. Évidemment, aujourd'hui, une époque où on voit des publicités qui incitent à l'infidélité, ça c'est vraiment scandaleux. Eh bien, le monde n'est pas capable de comprendre le don de soi dans la virginité et le célibat pour le royaume des cieux. Donc vous voyez, il ne s'agit pas de dire de mépriser le mariage, évidemment, le grand bien du mariage. Il s'agit pas non plus d'un renoncement qui serait comme un sacrifice qui n'aurait pour seul but que d'obéir à une loi arriérée de l'Église dont on n'arriverait pas à se débarrasser. Au contraire, c'est un choix qui consiste à renoncer à un bien, mais pour se soucier des choses du Seigneur et chercher à lui plaire. C'est comme celui qui, je sais pas, le boxeur qui veut, avant de monter sur le ring, il doit suivre un entraînement très exigeant, il doit renoncer à beaucoup de choses pour être en forme, pour peser tant juste avant le combat, pour être en pleine forme le jour du combat. Et tous les sportifs, tous les gens qui veulent faire, qui veulent réussir, hein, un chef d'entreprise, un médecin, enfin tout le monde, n'importe quelle personne qui veut réussir, on le sait bien, ça nécessite de renoncer à un certain nombre de choses, à un certain nombre de sacrifices, lorsqu'on est focalisé sur un objectif. Eh bien, le prêtre et le religieux, la religieuse, renoncent à un certain nombre de biens, en particulier le bien du mariage, le bien de la génération, le bien de la sexualité aussi, pour se soucier des choses du Seigneur et chercher à lui plaire. Et donc, ils deviennent ainsi le signe de la primauté absolue de l'amour du Christ. Et ça, c'est très bien dit, c'est magnifique. Et le célibat, c'est pour ça que ça suscite beaucoup de haine de la part des ennemis du Christ, parce que c'est le signe de la primauté absolue de l'amour du Christ. Oui, un prêtre qui a fait vœu de célibat, une religieuse qui a choisi la virginité consacrée, eh bien, c'est pour dire au monde entier, ça ne nous intéresse pas. Ce que nous ont proposé, il y a bien mieux. Il y a bien mieux, et je vais vous le prouver parce que moi j'ai donné ma vie pour quelque chose qui est bien mieux que tout ce que vous proposez. Alors, on vit dans un monde dans lequel on a l'impression que, enfin, tous les films, toutes les séries, tous les trucs à la télé, continuellement, on a l'impression que le sexe, c'est la seule chose qui compte, et que quelqu'un réussit sa vie uniquement en fonction du nombre de partenaires qu'il a eu. C'est évidemment évidemment tout à fait dégradant. Et c'est une vision de l'homme et de la femme qui est tout à fait, animale et dégradante, oui, dégradante. Il faut retrouver le sens de la virginité, et j'appelle tous les chrétiens, tous ceux qui m'écoutent, en particulier les jeunes, à vraiment à mettre un point d'honneur à garder leur virginité pour le jusqu'au mariage, jusqu'au mariage, je sais. Il faut avoir le courage de reparler de la beauté, de la virginité, des femmes comme des hommes, hein, c'est la même chose, à savoir qu'on donne pas son corps à n'importe qui, et on ne, c'est ce que l'homme, c'est que l'être humain a de plus intime et de plus cher, et le fait de perdre sa virginité, surtout si c'est juste dans une soirée, parce qu'on veut s'amuser et s'éclater, comme ils disent aujourd'hui, c'est dégradant. C'est dégradant et ça fait du mal. Ça fait du mal, bien sûr. Donc, retrouvons, surtout nous, chrétiens, parce que les autres peuvent pas le comprendre, donc nous, chrétiens, retrouvons le sens de la virginité consacrée, de la virginité avant le mariage, ayons le courage de prêcher là-dessus, de le dire. Ouais, moi, ce qui me désespère, c'est tous ces jeunes qui se disent catholiques et qui ont, en fait, coucher avec n'importe qui, parce que, bon, c'est comme ça que ça se fait, ou qui vont vivre en concubinage avant le mariage. Ah bah, tout le monde fait ça, voilà. Non, pas du tout, pas du tout. Ça devrait être un scandale de voir un chrétien qui a perdu sa virginité, qui a donné son corps à n'importe qui, n'importe comment, pour un plaisir de quelques secondes, souvent d'ailleurs très décevant. Voilà, on est tous concernés. C'est une lutte, bien sûr. Bah, il faut lutter contre le péché, contre les tentations. C'est possible, par la grâce de Dieu, c'est possible. Et en tout cas, c'est le modèle qu'on doit suivre. Si par malheur, à cause du péché, de la faiblesse, on n'a pas réussi, on n'a pas su, on s'est pas méfié, ou etc. On est tombé, on a chuté. Eh bien, au moins ne pas en faire une gloire et cacher son péché. Et en tout cas, considérer la virginité et la pureté du corps et du cœur et de l'âme et du regard comme une priorité, une nécessité pour que l'homme vive selon l'esprit. Voilà, dans l'ardente attente de la venue glorieuse du Seigneur. Enfin, on est fait pour Dieu. On est fait pour Dieu, pour les choses spirituelles. On n'est pas du tout fait pour les choses qui rabaisse l'homme, même si elles ont, je répète, hein, même si la sexualité, évidemment, est conjugale, est une chose voulue par Dieu, est bonne et belle, et très bien. Néanmoins, il faut savoir que c'est aussi le lieu où c'est le lieu de toutes les débauches et toutes les déceptions et toutes les tristesses. Voilà. Je me permets d'insister là-dessus parce que je suis souvent déçu par le fait que même les chrétiens plaisantent là-dessus et puis ont l'air de ne pas croire que ce soit une chose importante. Non, il faut garder ça et surtout rire au nez du monde en disant voilà, seule chose que vous savez faire, c'est rechercher les jouissances les plus dégradantes. Il n'y a aucune gloire à cela, il n'y a aucune fierté et voilà. De même façon, il faut se garder de regarder des films, de suivre des artistes, des gens qui changent de partenaire tout le temps, qui mettent ça en avant. Ouais, tous ces films qui font la promotion de l'infidélité, de la tromperie, de l'homosexualité. En fait, il faut s'en méfier, il faut s'en séparer. Il faut pas que ce soit quelque chose considère comme neutre. Donc ça veut dire qu'il faut éviter beaucoup de distractions du monde, beaucoup de films, etc. Sinon, ça rentre dans l'esprit comme ça, dans l'esprit des enfants, et puis ça devient tout le monde fait ça, c'est normal, c'est comme ça, hein, voilà. Et après, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de remords, et puis ensuite, voilà. Vous savez, encore une fois, dans les médias aujourd'hui, dans le monde, on a l'impression que la sexualité, c'est il faut être épanoui sexuellement pour avoir une vie. La réalité, c'est que la majorité des êtres humains n'ont absolument pas une vie sexuelle épanouie au sens du monde. C'est vraiment une petite caste qui impose, en tout cas, son programme, malheureusement, qui est très répandu dans notre monde occidental. Mais aujourd'hui, en raison de l'âge, en raison de situation économique, en raison de plein de choses, eh bien, toute cette folie de l'hypersexualisme, eh bien, échappe à corrompre beaucoup d'hommes et de femmes. Alors, pour terminer, comment se célèbre le sacrement de mariage? Alors, puisque le mariage établit les conjoints dans un état public de vie dans l'Église, sa célébration liturgique est publique, en présence du prêtre ou du témoin qualifié de l'Église et des autres témoins. Alors, on parlera la prochaine fois du consentement matrimonial, etc. Et de tout ce qui s'ensuit. Mais ici, effectivement, il est déjà question de la publicité du mariage. C'est très important. Parce qu'il faut des témoins. Et alors le prêtre, c'est pas le prêtre qui marie. Pourtant, c'est un peu l'expression qu'on utilise habituellement, j'ai marié telle personne, ou c'est tel prêtre qui nous a mariés. Mais en fait, c'est pas le prêtre qui marie. Ce sont les conjoints qui se marient, qui se donnent l'un à l'autre le sacrement. C'est assez étonnant, mais c'est comme ça. On avait parlé au début. Ce sont les époux qui se donnent le sacrement. Et le prêtre n'est que le témoin qualifié de l'Église, qui va permettre d'inscrire dans un registre, etc. Et puis de bénir cette union. Mais ce sont les époux qui se donnent le sacrement. Voilà. Alors, eh bien, nous retrouverons, non pas la prochaine fois, pour ceux qui écoutent en temps réel, je ferai la fois prochaine un épisode spécial pour hors série pour la Semaine Sainte, et la semaine suivante un épisode hors série pour Pâques. Et nous nous retrouverons donc après Pâques, dans 3 semaines, pour encore au moins un épisode sur le mariage. Et puis, les derniers épisodes sur les sacramentaux, les exorcismes et les funérailles chrétiennes, pour conclure cette seconde partie du catéchisme. Comme d'habitude, prions le Saint-Esprit de nous éclairer pour mieux comprendre, mieux vivre cet enseignement de l'Église. Venez Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, il se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez instruit les cœurs de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations, par Jésus-Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Merci à tous pour votre fidélité et pour votre écoute attentive de cet épisode. Faisons rayonner autour de nous ces belles vérités de la foi catholique. Surtout, n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Priez pour moi, je prie pour vous, et que Dieu vous bénisse. C'était l'abbé Mathieu Raffray. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sursum Corda.